Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission d'Un jour dans l'histoire et merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Dans son livre « La jeunesse du grand Frédéric » publié à la fin du XIXe siècle et consacré donc à Frédéric le Grand, Frédéric II de Prusse, l'historien Ernest Lavis évoquait la Prusse de la façon suivante. Il écrivait « La nature qui a préparé certaines patries et construit des berceaux pour les peuples n'a pas prévu la Prusse. Il n'existe en effet ni race ni région géographiquement prussienne. L'Allemagne est fille de la nature ». Mais la Prusse a été faite par des hommes. Pour nous, Français, l'histoire de la Prusse est associée, selon le cas, à des victoires comme celle de Iéna en 1806, ou bien au contraire à des défaites, la plus fameuse étant naturellement celle de 1870. Nous associons d'ailleurs assez facilement la Prusse à l'Allemagne et à la France, ce qui est un tort, sûrement par facilité, peut-être par paresse intellectuelle, ou tout simplement parce que notre vieille mémoire sélective pense davantage à l'affrontement franco-allemand qu'à la naissance de cet État dont nous allons situer les prémices au milieu du XVIIe siècle sous le gouvernement de Frédéric Guillaume, appelé également le Grand Électeur, car il existait des électeurs en Europe bien avant 1789. Alors oui, la Prusse et son histoire nous paraissent insaisissables, avec ses Frédéric Guillaume et ses Guillaume tout court, dont on ne sait s'ils étaient roi de Prusse, roi en Prusse, ou bien électeur, burgrave ou bien margrave, empereur d'Allemagne ou empereur allemand, ce qui n'est pas la même chose. Je vous propose aujourd'hui de découvrir leur histoire. Quand commence l'histoire de la Prusse? Comment se forma cette entité politique qui sut croître au XVIIIe siècle pour atteindre son apogée au XIXe siècle? Quelle fut sa fin aussi? Car l'histoire de la Prusse a une fin bien déterminée. Autant de points que nous allons aborder au cours de cette émission avec mon invité, l'historien Jean-Paul Bled. Jean-Paul Bled, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la troisième fois que je vous reçois au micro de Canal Académie. Nous avons évoqué ensemble l'année décisive de l'histoire européenne, l'année 1866, la victoire prussienne de Sadowa, à l'occasion de la sortie de votre biographie de Bismarck aux éditions Alvic. Et vous êtes aussi l'auteur d'une autre biographie consacrée à Frédéric II de Prusse chez Fayard. Et vous venez de publier chez le même éditeur une histoire de la Prusse. Alors vous êtes germaniste, je le rappelle à nos auditeurs, ancien directeur du Centre d'études germaniques de Strasbourg, professeur à l'Université Paris IV Sorbonne et titulaire de la chaire d'histoire de l'Allemagne contemporaine et des mondes contemporains. Alors, ce livre, Jean-Paul Bled, vient en quelque sorte dans le prolongement de votre biographie de Frédéric II de Prusse?
Oui, il y a, je dirais, un parcours assez naturel. Après une biographie de Frédéric le Grand, une biographie de Bismarck, la logique voulait que tout cela fût parachevé par une histoire de la Prusse. Mon éditeur en a été d'accord et je m'en suis réjoui parce que c'est effectivement un très beau sujet. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, comme j'avais pris beaucoup de plaisir à écrire les autres livres. Je pense que pour un auteur, quel qu'il soit, un historien, dans le cas concret, c'est important d'avoir du plaisir aux travaux que l'on entreprend et que l'on mène jusqu'à la fin.
Est-ce que vous avez voulu, à travers votre biographie, réconcilier en quelque sorte les Français avec la Prusse?
Peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, essayer de leur faire mieux connaître, mieux comprendre cette entité dont vous avez rappelé d'abord qu'elle est singulière, et puis aussi bien sûr qu'il y a une relation délicate avec la France. Il est évident que dans la mémoire collective, les Prussiens ont été les Pruscos. On a d'ailleurs employé cette expression avant celle de Bosch. Et l'image de la Prusse dans la mémoire collective, dans l'inconscient collectif, est une image négative. Or, bien sûr, il y a eu ces moments très douloureux de conflit, mais l'histoire de la Prusse est beaucoup plus vaste. Et il y a eu aussi des moments où les relations ont été bien meilleures. Je dirais d'ailleurs qu'il y a une alternance d'attrait et de rejet dans cette relation entre la France et la Prusse.
Alors, j'en viens directement à la chronologie parce que bon, je souhaiterais au cours de cette émission m'intéresser non pas à l'apogée de la Prusse que nous avons largement évoqué au cours de l'émission consacrée à Frédéric le Grand, mais peut-être m'attarder aux origines, la Prusse avant la royauté de Prusse, c'est-à-dire avant l'année 1701. Et nous verrons en fin d'émission le déclin de la Prusse, ou plutôt la disparition. On va préférer le terme de disparition au déclin, puisque là aussi, on peut dater très exactement la fin de cette entité politique. Alors, j'en viens à la chronologie. Nous sommes au début du XIIIe siècle, en 1226 très exactement. La Prusse existe déjà? Est-ce que c'est une entité géographique? D'où vient d'ailleurs le mot de Prusse?
Alors, c'est un mot d'origine slave qui s'applique à un peuple, donc les Prussiens. Mais d'abord, je voudrais dire que vous avez tout à fait raison de prendre le sujet aussi haut dans le temps, parce que on peut effectivement s'interroger sur la naissance de la Prusse. Où faut-il la situer? Et il y a certains historiens qui choisissent de démarrer leur étude à la hauteur du XVIIe siècle, c'est-à-dire au moment où la Prusse et le Brandebourg, les deux poumons, n'est-ce pas, absolument, de ce qui va devenir le royaume de Prusse, s'unissent. Bon, c'est une conception qui est parfaitement légitime, évidemment, mais je pense néanmoins qu'elle ne fait pas justice de cette genèse. Et effectivement, il faut partir, me semble-t-il, et des chevaliers teutoniques, et donc c'est la date que vous indiquiez, 1226, et puis aussi du Brandebourg. Alors, en ce qui concerne 1226, c'est l'arrivée des chevaliers teutoniques dans cet espace que l'on appelle la Prusse ou le pays des Prussiens à ce moment-là. Et pourquoi viennent-ils? Eh bien, tout simplement parce que ces populations, à l'extrémité de l'Europe, sont encore païennes. Et donc, il y a là une croisade, une opération de croisade. Les croisades ne sont pas simplement, uniquement déroulées au Proche-Orient pour la conquête ou la reconquête de Jérusalem, mais il y a eu aussi des croisades en Europe, et en voici une très importante. Alors, ces chevaliers teutoniques vont guerroyer pendant plus d'un demi-siècle dans cet espace. Ces populations ne se sont pas rendues sans se défendre. Il y a donc eu de véritables guerres, très longues, c'est-à-dire un demi-siècle. Et au terme de ces guerres, les chevaliers teutoniques se sont implantés, installés, et ont créé ce qui était déjà un État. On peut parler d'un État teutonique. C'est un terme qu'on ne peut pas, je dirais, galvauder à travers l'Europe encore au XIIIe siècle, n'est-ce pas? Mais ici, oui, et on peut même parler d'ailleurs d'une certaine manière, au-delà d'un État, d'un empire teutonique. Alors, cette histoire des chevaliers est très intéressante. Il y a eu tout un phénomène de croissance de cet État teutonique.
Vous décrivez d'ailleurs cette croissance par les mouvements de colonisation, la création de villes.
Oui, alors comme dans d'autres régions de l'Est européen, les chevaliers teutoniques ont fait appel à des colons qui sont venus pour l'essentiel des régions allemandes. On ne parlera pas encore d'Allemagne, mais des régions allemandes. Et bien entendu, pour les attirer, il fallait leur faire des conditions avantageuses, ce qui veut dire que à ce moment-là, ça signifiait la libération, l'émancipation, donc des paysans, pas de servage. Et puis alors aussi, le développement de villes dont certaines sont devenues très importantes, et on pense ici en premier lieu à Königsberg, qui va devenir ensuite la capitale politique, culturelle de cette Prusse, lorsque les chevaliers teutoniques seront partis. Bien, donc, il y a une entité militaire, politique, économique, qui est pendant une période assez longue, on a parlé de Königsberg, mais Danzig est dans le giron des chevaliers teutoniques, et Danzig, c'est le grand port de la Baltique, par lequel les céréales cultivées dans ces régions sont exportées vers des pays de l'Europe occidentale. C'est le grand port de la Baltique. Donc, alors, vous voyez, une entité très importante, ce qui veut dire aussi qu'elle fait des envieux. Elle fait des envieux, et notamment du côté des Polonais.
Alors, c'est justement un des apports de votre livre, c'est montrer qu'il y a des constantes géopolitiques. Hein, le conflit entre l'Allemagne et la Pologne ne date pas de l'époque d'Hitler, mais trouve ses racines très loin dans le temps. Et notamment, à cette époque, vous décrivez cette situation conflictuelle entre la Pologne et donc cet État teutonique. Et il y a notamment cette fameuse bataille dans un lieu qui prendra une toute autre dimension en un tout autre siècle, c'est à Tannenberg en 1410.
Absolument. Et donc là, c'est un tournant dans l'histoire de la Prusse et des chevaliers teutoniques, puisque cette armée des chevaliers teutoniques, qui représente une armée de 50 000 hommes, est défaite par la coalition des Polonais et des Lituaniens. Alors, ça ne signifie pas immédiatement la fin de l'État teutonique, mais on peut considérer qu'à partir de là, cet État entre dans une période de déclin et qui va se concrétiser un peu plus tard dans le siècle, par le traité de Thorn ou de Toruń en polonais, par lequel l'État teutonique devient vassal du royaume de Pologne. Et évidemment, c'est une transformation majeure et c'est une tutelle qui va demeurer jusqu'au XVIIe siècle. Donc, ça va durer 2 siècles. Alors, comment cet État teutonique va-t-il disparaître? Eh bien, ça nous amène maintenant à l'orée du XVIe siècle. C'est en rapport avec cette tutelle, avec cette suzeraineté polonaise sur l'État teutonique. Le grand maître, qui était un Hohenzollern, a chercher à secouer cette tutelle. Il s'est adressé à Charles Quint, il s'est adressé au pape. Il a reçu, si je peux dire, de bonnes paroles, mais pas un appui réel, tangible, concret. Et non seulement il a décidé de maintenir la relation de vassalité par rapport au roi de Pologne, mais il a fait un pas de plus, puisqu'il s'est converti au luthéranisme naissant. Donc, on a assisté à un phénomène de sécularisation. Ce grand maître de l'ordre teutonique est devenu duc de Prusse. Et cet état religieux, n'est-ce pas, a disparu. Même si l'ordre des chevaliers teutoniques, l'ordre teutonique n'a pas disparu, il existe encore aujourd'hui. Il est domicilié à Vienne. Mais cette entité a été sécularisée. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons un État prussien séculier. Mais dans le même temps, le Brandebourg se développe lui aussi.
Alors justement, vous disiez tout à l'heure qu'il s'agissait du deuxième poumon qui formera plus tard le royaume de Prusse. C'est ce que je vous propose de voir, Jean-Paul Bled, après cette première pause. Nous nous retrouvons dans un instant.
Jean d'Ormesson sur Canal Académie, immortel depuis le 18 octobre 1973, date de son élection à l'Académie française, Jean d'O, comme l'appellent familièrement ses lecteurs, n'a pas attendu cette date pour devenir un écrivain célèbre. Retrouvez Jean d'Ormesson sur Canal Académie avec Elisabeth Antebi dans notre émission En habit vert.
Je reçois Jean-Paul Bled, auteur d'une histoire de la Prusse parue chez Fayard, et nous évoquons donc les origines de la Prusse. Alors avant cette pause, nous évoquions, Jean-Paul Bled, la formation de cette Prusse, le développement de cette Prusse sous l'influence des chevaliers teutoniques. Mais comme vous le disiez, la Prusse, c'est à la fois la Prusse, mais aussi ce qu'on appelle le margraviat de Brandebourg. Et c'est le deuxième poumon, en quelque sorte, de la Prusse. Et on a des destins séparés, même si dans le développement du margraviat de Brandebourg et de la Prusse, il y a évidemment des analogies.
Alors, oui, ce sont des destins au départ séparés, bien sûr. D'ailleurs, la Prusse, dont nous venons de parler, dans la forme que nous avons évoquée, elle est extérieure au Saint-Empire, n'est-ce pas? situation qu'on retrouvera plus tard lorsque la Prusse sera devenue la Prusse orientale. Elle sera également extérieure, elle restera extérieure au Saint-Empire et elle restera extérieure à la Confédération germanique qui naîtra après les congrès de Vienne de 1815. Le Brandebourg, lui, il est dans l'Empire. Et non seulement il est dans l'Empire, mais il en est une composante importante, puisque l'empereur Charles IV, roi de Bohême, de la famille des Luxembourg, lorsqu'il organise l'élection de l'empereur, va promulguer une bulle, c'est la bulle d'or de 1356, qui prévoit la composition d'un collège électoral de 7 membres. Et dans ces 7 membres, parmi les 4 électeurs laïcs, il y a le margrave de Brandebourg. Donc, c'est signalé évidemment l'importance qu'a déjà prise cet État dans l'ensemble allemand, l'ensemble du corps germanique. Mais pour l'instant, ce ne sont pas les Hohenzollern qui sont dans la place. Il y a eu un moment de présence bavaroise. Et puis ensuite, ce sont les Luxembourg qui sont arrivés. Charles IV, dont j'évoquais la figure à l'instant. Et puis son fils, Sigismond, qui va devenir en même temps roi de Hongrie. Et c'est à l'époque de Sigismond, au début du XVe siècle, que celui-ci va confier en fief le Brandebourg au burgrave de Nuremberg, qui était un Hohenzollern. Alors c'était une autre branche que celle qui régnait sur la Prusse, mais voilà les Hohenzollern qui arrivent également à leur tour, donc dans le Brandebourg.
Il confie, mais il ne donne pas. En fait, c'était en quelque sorte un pis-aller, mais ce pis-aller va devenir définitif.
Voilà, c'est cela. Dans un premier temps, c'était une mission qu'il lui confiait, et puis, assez rapidement, l'autorité de Frédéric s'est transformée en une autorité définitive. Donc là, à partir de là, nous entrons dans un système héréditaire, et donc nous avons 2 branches de la famille, qui règne sur 2 entités séparées. Mais alors après, comme cela s'est produit dans d'autres circonstances, il y a eu des liaisons familiales, et puis à un certain moment, la branche prussienne va s'éteindre, et dès lors, on arrive en 1618, cette date clé dans l'histoire de cette entité, c'est donc la branche brandebourgeoise qui va succéder, ou hériter plus exactement, hériter de la branche défunte. Alors bien sûr, au départ, c'est une union personnelle.
Là, nous sommes à la fin du XVIIe, mais je voudrais tout de même revenir et ouvrir une assez longue parenthèse sur la période avant les Hohenzollern, parce qu'il y a des moments très importants, vous les citez. Je disais qu'il y avait des analogies dans le développement entre la Prusse et le Brandebourg, et par exemple, en 1251, c'est la création de Berlin. Il y a bien d'autres villes, et on constate, non pas la même sociologie, mais les mêmes mouvements qu'en Prusse, colonisation, etc.
Oui, alors tout à fait, nous sommes aussi dans l'Est de l'Allemagne, moins à l'Est qu'en Prusse, mais enfin c'est aussi l'Est de l'Allemagne. Ce sont des territoires qui ont été aussi conquis sur les païens, ça s'est fait là au XIIe siècle, c'est donc en gros un siècle avant les événements dont on a parlé en Prusse, mais c'est le même processus. On a également un autre processus voisin, c'est que en Prusse, petit à petit, on a vu se constituer de grands domaines à la tête desquels pouvaient être placés soit des chevaliers teutoniques, soit des nobles qui étaient venus du reste de l'Allemagne. Et en Brandebourg, on a en gros le même phénomène qui va se former lentement, certes, mais qui va se former aussi, c'est-à-dire de phénomènes donc de grandes propriétés foncières. Et c'est important parce que c'est un phénomène qui va s'inscrire dans la durée jusqu'au XIXe siècle, voire encore au XXe d'une certaine manière, et qui distingue certainement cette Allemagne située à l'est de l'Elbe, disons, pour schématiser, n'est-ce pas, de l'Allemagne occidentale, qui, elle, va connaître une évolution différente dans laquelle la propriété féodale aura moins de poids. Oui, le système féodal, c'est comme ça qu'on peut le rappeler, sur le plan agraire, sera beaucoup moins puissant qu'il ne le sera à l'est de l'Elbe. Ça veut dire que, par exemple, on peut évoquer que l'État prussien va, dès cette époque, avoir des dépendances dans l'Allemagne rhénane, ce sera Clèves, ce sera Juliers. Eh bien, effectivement, la structure de la propriété sera très différente de celle qu'elle sera au Brandebourg ou en Prusse et plus tard la Prusse orientale. On aura une catégorie de paysans qui seront soumis à des contraintes beaucoup moins lourdes que ce ne sera le cas au Brandebourg, en Poméranie plus tard et puis en Prusse.
Est-ce que ces grands propriétaires fonciers constituent une sorte de contre-pouvoir ou tout simplement une force centrifuge? Et est-ce que, au même titre que finalement il y a l'organisation extérieure, nous avons évoqué la Pologne tout à l'heure, il y a également l'organisation intérieure, et qu'il y a des résistances à ce qu'il y ait un pouvoir centralisé entre guillemets, on le met bien entre guillemets,
parce bien
que
sûr.
La centralisation à cette époque signifie tout autre chose que notre centralisation.
Absolument. Mais oui, vous avez tout à fait raison. Il y a des forces de résistance, et d'ailleurs dans certains cas, en Prusse, c'est très net, ces résistances peuvent s'allier aux oppositions extérieures. C'est-à-dire, dans le cas concret,
la Pologne,
à plusieurs reprises, cela s'est vérifié. Alors, aussi bien en Prusse qu'au Brandebourg, il y a un système d'assemblée d'État, les Stände, selon la terminologie allemande, avec une diète, diète dominée par, justement, ces propriétaires fonciers. C'est intéressant à observer parce que lorsqu'on passera au XVIIIe siècle, c'est dans ce milieu que l'État prussien va recruter ses officiers, une bonne partie de ses administrateurs. Mais l'histoire de la relation des Hohenzollern avec ce milieu politico-social, eh bien, cette histoire a commencé par des conflits. Et en fait, il a fallu de la diplomatie, mais dans certains cas de la fermeté au prince pour mater ses résistances. Et ça ne s'est pas fait en quelques années. C'est une longue affaire qui s'étend sur des décennies.
Oui, alors vous montrez aussi le rôle des Ascaniens, je ne sais pas si je prononce bien.
Oui, tout à fait. Alors ça nous renvoie au tout début.
Au Brandebourg, là encore.
C'est eux, effectivement.
Avec Albert Lours.
Exactement. C'est eux qui ont mené ces guerres contre les païens, comme les Teutoniques ont mené les guerres contre les païens en Prusse.
Donc ceci, 1134 à 1320, vous montrez après toutes ces rivalités entre les différentes propriétés, entre les différents princes. Vous évoquiez tout à l'heure, à propos de la Prusse, la question religieuse, la question de la réforme. Quel est l'impact, là aussi, de la réforme sur le Brandebourg?
Cet impact, il est considérable. Le Brandebourg s'est converti au protestantisme un tout petit peu plus tard que la Prusse. C'est dans la foulée, je dirais, n'est-ce pas? Ça veut dire avant même le milieu du XVIe siècle, le basculement est fait. Donc, cela rapproche aussi les deux entités dont nous parlons, cette adhésion au protestantisme. Toutefois, on peut nuancer un peu le propos parce que, au début du XVIIe siècle, les Hohenzollern vont adhérer au calvinisme. Et ça pose un problème, d'abord parce que la majorité, ou la totalité de la population prussienne reste luthérienne. Et au Brandebourg, une partie très importante, on peut même dire majoritaire, pas la totalité, mais une partie majoritaire de la population reste également luthérienne. Et cela va exposer la dynastie à des difficultés avec cette population. Et ce qui va amener Margrave de Brandebourg, prince électeur, à prendre une mesure de tolérance, c'est-à-dire, en opposition avec la fameuse règle « eius regio, curius religio », eh bien, de reconnaître les deux confessions à l'intérieur de ces États.
Oui, nous sommes en 1615, donc au début du XVIIe siècle. Je disais en début d'émission que les prémices de l'État, avec un grand E majuscule, se situent au milieu du XVIIe siècle. C'est ce que nous allons voir, Jean-Paul Bled, après cette deuxième pause. Nous nous retrouvons dans un instant, à tout de suite. Nous entamons la troisième partie de notre émission consacrée donc aux origines de la Prusse. Nous avons évoqué, comme nous le disions, le berceau de la naissance de la Prusse. Et je disais avant cette pause que la naissance de l'État à proprement parler se situe au milieu du XVIIe siècle avec un personnage très important que vous décrivez très longuement. Il s'agit du grand électeur, donc Frédéric Guillaume, qui crée en quelque sorte l'État, un État secondaire, mais un État tout de même qui joue les premiers rôles, notamment lors de la guerre de 30 ans.
Oui, Frédéric Guillaume a en quelque sorte posé le socle à partir duquel les successeurs, Frédéric Guillaume Ier, le fameux roi Sergent, et puis ensuite Frédéric II, bâtiront l'État prussien. Alors, Frédéric Guillaume, le grand électeur, dont il y a une très belle statue équestre devant le château de Charlottenburg à Berlin, a un rôle très important. Vous évoquiez la guerre de 30 ans. Ça a été une période extrêmement difficile. Il faut bien voir que la Prusse, comme d'autres composantes de l'Allemagne, a été saignée à blanc, c'est-à-dire qu'elle a perdu un bon tiers de sa population. Elle a été ballottée parce que, effectivement, avant que le grand électeur n'arrive, c'est-à-dire en 1640, eh bien, c'est encore un État faible et qui n'a pas d'autonomie réelle et qui, du même coup, se trouve ballotté entre les deux camps, entre les Suédois qui font des ravages et puis les impériaux qui en font autant. Bon, alors, avec Frédéric Guillaume, le grand électeur, qui arrive sur la fin de la guerre de 30 ans, il va d'abord réussir par un jeu politique, c'est un jeu de bascule. Il est d'une certaine manière assez faible et il a compris que pour un État faible, le seul atout qu'il pouvait avoir, c'était les bascules en fonction des circonstances. Ce n'est pas l'idéologie, ne compte pas. L'idéologie ou la religion ne compte pas. Il faut s'adapter aux circonstances. Alors, il a su s'adapter aux circonstances, ce qui lui a valu un certain nombre d'avantages territoriaux à la fin de la guerre, donc au traité de Westphalie, bien entendu, mais pas la Poméranie, qui était le territoire qu'il lorgnait, qui va lorgner d'ailleurs durant tout son règne. Il n'en obtiendra qu'une partie, les Suédois gardant l'autre. Et ce sera une grande douleur, le grand chagrin de Frédéric Guillaume. Alors, ensuite, très important, c'est lui qui émancipe l'ensemble Brandebourg-Prusse de la tutelle polonaise. Cette fameuse tutelle polonaise dont on a parlé, qui a duré jusqu'au traité d'Oliva au début des années 60. Donc, c'est lui qui parvient. Ce qui fait d'ailleurs qu'à ce moment-là, nous avons toujours ces fameuses deux entités, mais qui sont maintenant sur le même plan, puisque la Prusse est maintenant dépouillée des liens qui la soumettaient à la Pologne, donc le Brandebourg et la Prusse sont sur le même plan. Et par ailleurs, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, Frédéric Guillaume va mater assez durement, voire très durement, la résistance de la Diète de Prusse. Au Brandebourg, les choses se sont faites, disons, de manière plus pacifique, mais à Königsberg, il a employé la manière forte. Et avec le résultat que cette Prusse étant à la fois émancipée de la tutelle polonaise, pacifiée à l'intérieur, il va pouvoir amorcer un processus de centralisation, un terme qu'il faut employer évidemment avec beaucoup de précautions, comme vous l'avez fait tout à l'heure, mais il pose, il installe un embryon d'administration centrale qui s'applique donc à la fois au Brandebourg et à la Prusse. Et donc, de ce fait-là, il est bien le père de ce qui va devenir la Prusse.
Alors, il a un avantage pour lui, c'est qu'il a le temps, hein, puisqu'il arrive très tôt au pouvoir. Il a 20 ans, une vingtaine d'années. Il reste 48 ans au pouvoir. Embryon d'État, vous venez de le dire. Également, acte de naissance de l'armée prussienne hein, par la victoire de Fehrbellin le 18 juin 1675. Et un élément que nous, Français, nous devons d'évoquer, c'est la révocation de l'édit de Nantes. Il y a un lien, bien évidemment, avec le règne de Louis XIV, avec l'époque de Louis XIV, qui révoque donc l'édit de Nantes. Et il y a un appel d'air, si je puis utiliser cette expression, il y a un appel d'air, en quelque sorte, de Frédéric Guillaume vers ces protestants qui, en France, ne peuvent appliquer cette religion. Et l'expression de siècle français en Prusse, qui sera utilisée plus tard, n'est pas, vous dites, une expression usurpée.
Tout à fait. Et on peut y voir là les prémices. C'est donc à l'édit de Fontainebleau, répond quelques semaines plus tard l'édit de Potsdam, qui offre le refuge, c'est d'ailleurs le terme qui va être employé, le grand refuge, qui offre donc le refuge aux Huguenots français. Alors tous n'iront pas en Prusse, beaucoup vont s'installer en Angleterre ou dans les provinces unies, mais il va y en avoir un certain nombre, de l'ordre de 20 000, qui vont ainsi s'installer au Brandebourg et en Prusse, et qui vont notamment contribuer à l'essor de Berlin. Parce que sur la fin du XVIIe siècle, le début du XVIIIe siècle, nous avons un quart de la population berlinoise qui est d'origine française. Et évidemment, ces Français, au fil des générations, au XIXe siècle, ils seront assimilés, bien sûr. Mais c'est un processus qui sera très lent. Et donc, la marque française, elle va s'imprimer sur le Berlin de la fin du XVIIe et on peut le dire sur tout le XVIIIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle. Vous avez sur, par exemple, et les auditeurs qui sont allés à Berlin le savent bien, il y a une place qui s'appelle la place des gendarmes à Berlin, sur laquelle nous avons deux églises ou deux temples, la cathédrale allemande, Deutscher Dom, et puis à côté, faisant face, nous avons l'église française, qui renvoie bien entendu à nos Huguenots. Et puis, il y a toute une série de manifestations dans le parler berlinois qui a incorporé toute une série de mots français. Alors aujourd'hui, bien sûr, ces mots ont été un peu malaxés et il y en a parfois du mal à reconnaître l'origine, mais quand on y prête attention, on voit bien le fil qui conduit jusqu'à la forme actuelle. Et puis alors, bien entendu, beaucoup de ces Huguenots qui se sont établis à Berlin, pour d'autres aussi à Königsberg, eh bien, étaient issus des meilleures couches de la société française. Donc, ça a joué un rôle de stimulant, bien sûr, pour l'économie berlinoise et prussienne.
Apport démographique, hein, apport économique. Le pouvoir de Frédéric Guillaume, c'est à la fois un succès économique, un succès politique, un succès dans les arts, hein, vous le développez également. Vous avez évoqué aussi cette volonté de mettre la main sur la Poméranie qui, là, pour le coup, a été un échec. Vous le présentez vraiment comme un homme de devoir qui travaille jusqu'à la dernière minute, peu avant de mourir. Il sera là pour gouverner.
Tout à fait, c'était un homme de devoir.
Vertu prussienne.
Oui, vertu prussienne. Et c'est un modèle qui va se transmettre à beaucoup de ses successeurs. Pas d'ailleurs à son successeur direct, dont on va sans doute parler,
Frédéric III, puis Frédéric Ier.
Mais certainement son petit-fils, le roi Sergent, et puis ensuite son arrière-petit-fils, Frédéric le Grand. C'est-à-dire voilà des hommes qui passent la plus grande partie de leur journée, évidemment, à leur bureau, n'est-ce pas, à travailler pour le bien de leur État.
Alors, peut-être quelques mots, hein, avant de passer à l'époque contemporaine, peut-être quelques mots sur Frédéric III, qui devient, parce qu'on on se doit d'évoquer le premier roi de Prusse ou roi en Prusse, hein, c'est une question que vous posez dans votre livre, qui est donc couronné le 18 janvier 1701. Il est un peu considéré par l'historiographie, je vais dire d'une manière assez négative, assez dure, sévère, alors que finalement vous le réhabilitez quelque peu.
Peut-être un peu, oui. Cette image négative vient du portrait que son petit-fils, Frédéric II, a fait de lui. Frédéric II a écrit une histoire de la maison de Brandebourg et il a des propos extrêmement sévères sur son grand-père. C'était un prince baroque qui était très prompt à la dépense, il avait le goût du faste, soit. Mais il y a tout de même un héritage qui n'est pas négligeable, puisque effectivement, c'est lui qui crée le royaume. Alors, d'abord, c'est vrai, royaume en Prusse. Il devient roi en Prusse. Ce qui veut dire que dans les autres possessions, au Brandebourg en premier lieu, il ne devrait pas porter ce titre royal. Mais, je dirais, une pente naturelle. À partir du moment où le titre royal est dans la maison de Brandebourg, eh bien, on va progressivement s'appliquer à ce qu'il s'étende à l'ensemble des possessions. Alors, ce n'est pas immédiat, bien sûr, il faut le temps, mais ça va se faire. Et c'est tellement vrai que lorsqu'on arrivera au règne de Frédéric II, eh bien, lorsqu'on parlera de Frédéric II, on ne dira plus le roi en Prusse. Il sera devenu le roi de Prusse. Et ça sera acquis par tout le monde, n'est-ce pas? Dans les chancelleries, ce sera l'expression qui sera employée. Donc, il est, d'une certaine manière, le père de la Prusse. Alors, ce qui veut dire aussi que le territoire que nous avons appelé jusqu'à présent la Prusse, eh bien, va changer de nom. Puisque désormais, au XVIIIe siècle, le terme de Prusse s'applique à toutes les possessions de la maison de Brandebourg. La Prusse, le berceau, va devenir la Prusse orientale, c'est-à-dire une partie, une composante de l'ensemble prussien. C'est aussi un prince intéressant parce que il avait le goût des arts, le goût des sciences, et il a fondé l'Académie des sciences de Berlin avec le grand Leibniz. C'est donc pas une petite affaire. Et il a créé également l'Académie des arts sur le modèle français, nouveau, n'est-ce pas? Nous avons là à nouveau un témoignage de cette influence française.
Alors, Jean-Paul Blaine, nous allons faire un bond dans le temps, puisque nous allons nous diriger vers le 19e et surtout vers le début du 20e siècle, qui voit donc la disparition de la Prusse. C'est ce que je vous propose de voir dans cette toute dernière partie. À tout de suite.
Canal Académie rend hommage aux grandes figures historiques de l'Institut de France. Jean-François Revel, de l'Académie française, décédé en 2006. Jacques Bainville, également journaliste et également immortel de la française, mais d'une autre génération. Les frères Rénac, grandes figures de la Troisième République, dont l'un d'entre eux, Salomon, était membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. François Arago, scientifique du XIXe siècle, membre de l'Académie des sciences dès l'âge de 23 ans. Charles Trenet et Delacroix, tous deux membres de l'Académie des beaux-arts. Roger Arnaldez, philosophe de la pensée orientale médiévale, ainsi que beaucoup d'autres figures de l'histoire des académies qui, je vous le rappelle, remontent jusqu'au XVIIe siècle.
Vous êtes à l'écoute de Canal Académie et je reçois Jean-Paul Blaine, germaniste et auteur d'une histoire de la Prusse, une histoire de la Prusse parue aux éditions Fayard. Alors, j'ai souhaité vraiment évoquer pendant cette émission toutes les origines de la Prusse liées au Brandebourg, donc ces cinq siècles jusqu'à la date de 1701 qui voit donc l'érection de la royauté de Prusse. Et je voulais évoquer également le déclin de la Prusse, parce que finalement, c'est ce que je disais en début d'émission, on assimile la Prusse à l'Allemagne. Et au fond, c'est la première question que l'on se pose. Est-ce qu'en 1871, avec la création de l'Empire allemand, est-ce que la Prusse disparaît ?
Alors, la Prusse ne disparaît pas. Le royaume de Prusse subsiste. Et il va subsister jusqu'à la fin de la monarchie, donc en novembre 1918. Mais c'est vrai qu'une vraie question est posée. Celle de la relation de la Prusse et de l'Empire, la place de la Prusse dans l'Empire. Bismarck est un Prussien, évidemment. C'est la Prusse qui fonde l'unité de l'Allemagne. Et à cette Allemagne nouvelle, il donne, à bien des égards, des traits prussiens. Donc, on pourrait parler, on a parlé, d'une prussianisation de l'Allemagne. Cela étant, le problème n'est pas épuisé par ce constat. Et il y a une personnalité qui a eu tout de suite conscience, en quelque sorte, du péril que comportait cette transformation. C'est celui qui va devenir l'empereur allemand, le roi de Prusse, Guillaume Ier. Puisque le matin de ce fameux 18 janvier 1871, il a ces mots qui peuvent paraître étranges, « Ce jour est le plus triste de ma vie ». Pourquoi ce jour est-il le plus triste de sa vie alors qu'il va être proclamé empire allemand quelques heures plus tard ? Eh bien, c'est parce qu'il a conscience que la Prusse risque d'être absorbée dans cet empire. Alors, il y a une part de vérité. Bien sûr, les choses ne sont pas faites comme toujours, ce sont des processus lents. Je peux dire, je pense, que le problème n'est pas aigu à l'époque de Bismarck jusqu'en 1890. Bismarck reste un Prussien.
Et d'ailleurs, vous rappelez très bien que Bismarck fonde davantage une fédération d'États monarchiques plutôt qu'un pouvoir centralisé. Absolument. Tel que le concevra plus tard Hitler, ce qui d'ailleurs replace le débat sur les liens entre Hitler et Bismarck et au-delà bien avant de Frédéric de Prusse. Il n'y a pas de continuité.
Non, absolument. On peut parler, c'est une historienne est-allemande qui s'appelle Ingrid Mittensweig qui a parlé d'une ligne brisée. Alors là, entre Frédéric II et le nazisme, ben, on peut reprendre l'expression
pour Bismarck.
Pour Bismarck. Mmh. Vous avez tout à fait raison. C'est un empire fédéral. Bien sûr, la Prusse y occupe une place majeure, c'est l'évidence, mais les États, comme la Bavière, le Württemberg, le Bade et les autres, ils sont 25, conservent des pouvoirs très importants. Ça veut dire que toute la politique concernant l'instruction, le nom d'éducation à l'époque, les cultes, la justice, parfois l'armée, une partie des finances, eh bien, tout cela relève de l'autorité des États fédérés. Donc, le pouvoir central, il existe, mais il reste tout de même assez léger. Ce qui compte pour Bismarck, c'est évidemment la diplomatie. Les États n'interviennent plus. Et pour l'essentiel, l'armée.
Quelle est la place du sentiment allemand dans le sens de en faveur de l'unité allemande dans les années 1860 et 1870? Est-ce qu'il est important? Puisque vous dites c'est une fédération d'États monarchiques, donc ce sont des rois avant tout qui s'entendent, c'est une réaction, ce n'est pas une révolution, même si les libéraux sont heureux de voir cette unité allemande se former, mais c'est une unité allemande qui se fait par le fer et par le sang, pour reprendre l'expression de Bismarck. Alors, quelle est la place du sentiment de l'unité allemande? Est-ce qu'elle est importante?
Alors, il est indéniable qu'il y a un sentiment national fort qui a, je dirais, émergé à l'époque napoléonienne. Mais il faut tout de suite ajouter que ce sentiment n'est pas général. Ou en tout cas, que ce sentiment n'implique pas pour tous, que l'Allemagne doive forger son unité autour de la Prusse. Et là, il y a toute une opposition qui est forte en Allemagne du Sud, en Bavière notamment, mais aussi au Württemberg, dans, on peut le dire aussi, sans doute dans une partie de la Prusse, c'est-à-dire en 1815, la Prusse a annexé une grande partie de la Rhénanie. Et cette Rhénanie, évidemment, elle a connu la présence française, et elle est majoritairement catholique, ce qui fait que les relations sont souvent conflictuelles. Et précisément, la dimension religieuse est très importante. Les catholiques allemands, qui sont minoritaires par rapport aux protestants, mais qui constituent même une force importante, c'est un bon tiers de la population, ils regardent davantage vers Vienne que vers Berlin. Et donc, dans ce conflit qui culminera en 1866, les catholiques allemands sont favorables à l'Autriche, n'est-ce pas ? Alors évidemment, après 1866, il y a encore des résistances.
Il y a Alsen-Trou, mais en fait, c'est la motivation d'ailleurs de la politique du Kulturkampf.
Tout à fait, parce que Bismarck avait bien compris que l'unité s'est faite sans doute, comme vous le disiez, par le fer et par le sang. Mais ce qui a permis de passer, de surmonter les résistances, c'est précisément cette guerre. Parce que là, d'autant que Napoléon III a mis la France dans une mauvaise situation, évidemment, en déclarant la guerre. Et alors, ça a fait que il y a eu une explosion de sentiments nationaux, d'explosion de sentiments anti-français, et cela, en quelque sorte, pris le pas sur l'hostilité à la Prusse. Mais Bismarck savait très bien les limites de cette explosion de sentiment national, qu'une fois la guerre passée, ce sentiment allait retomber, nécessairement, et donc allait rester cette permanence de la réticence des catholiques vis-à-vis de la Prusse. D'où, ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des grandes raisons de cette grande offensive qu'il lance contre les catholiques, et c'est le Kulturkampf.
Nous évoquions tout à l'heure Hitler et la question prussienne. Je passe donc au début du XXe siècle. Il y a deux morts de la Prusse. La première mort, c'est l'exil de Guillaume II, donc après la Première Guerre mondiale. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, il y a aussi cette date de 1947 où là, les Alliés considèrent, je cite, la Prusse comme un État réactionnaire, alors qu'Hitler était plus révolutionnaire que réactionnaire.
Oui, vous avez raison. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour les Alliés, qu'il s'agisse des Américains, des Britanniques, des Russes, et des Français d'ailleurs, on peut l'ajouter, même s'il n'y a ni à Yalta, ni à Potsdam, il y a une continuité entre la Prusse et l'hitlérisme. La Prusse a fait le lit de l'hitlérisme et dès lors, eh bien, il faut dissoudre la Prusse, qui en réalité est déjà dissoute. Hitler avait dissous la Prusse.
Oui. Il y a ce mouvement de centralisation. Il lutte en quelque sorte contre le régionalisme, Hitler.
Absolument. Les Länder, donc ces anciens États fédérés qui composaient et l'Empire allemand, mais aussi la République de Weimar, eh bien, ils disparaissent. Il y a une formidable centralisation et d'ailleurs, c'est le seul moment de l'histoire allemande. Aussitôt cette période passée, eh bien, la République de Bonn deviendra une République fédérale. Elle recréera les conditions du fédéralisme. Et cela a survécu jusqu'à nos jours, bien entendu.
C'est dans cela que l'hitlérisme est davantage un égalitarisme, en quelque sorte, entre les régions et une révolution qu'une réaction qui, elle, mettrait en avant les régionalismes.
Oui, absolument. Alors, il y a beaucoup d'autres points qui font qu'il est, me semble-t-il, difficile d'assimiler le nazisme, l'hitlérisme à une forme exacerbée du prussianisme. On peut peut-être faire quelques rapprochements avec la figure de Guillaume II que vous évoquiez, parce que Bismarck a mené une politique étrangère finalement très mesurée une fois que l'unité a été faite. Avant, bon, c'est un révolutionnaire à sa manière, n'est-ce pas ? Mais une fois que l'unité est faite...
Un révolutionnaire blanc.
Voilà, exactement, selon la fameuse formule de Lothar Gall. Mais après, il met une politique mesurée. D'ailleurs, il a cette formule bien connue, l'Allemagne d'une puissance saturée. Donc, la question de réaliser de nouvelles annexions, de se lancer dans une grande politique d'expansion. Alors que, à l'époque de Guillaume II, c'est différent. D'abord, il y a la grande politique navale, Tirpitz, qui est une des causes de la Première Guerre mondiale. On défie l'Angleterre. Jamais Bismarck n'aurait fait cela. Il s'est bien gardé de développer une grande flotte. Il en avait les moyens, mais il ne l'a pas fait, en toute connaissance de cause. Et puis, il n'a jamais imaginé de lancer l'Allemagne dans une sorte de Drang nach Osten, n'est-ce pas ? L'idée de Lebensraum, l'espace vital, lui est complètement étrangère. Or, de ces idées-là, on voit déjà les prémices dans l'Allemagne de Guillaume II. Et puis alors, évidemment, il y a un point ultime, mais qui n'est pas le moins important. Dans le prussianisme, on ne trouve pas un antisémitisme exacerbé. Je ne veux pas dire que l'antisémitisme n'existe pas. Ce serait une ineptie de le formuler ainsi. Il y a des éléments antisémites. Mais un antisémitisme, je dirais, tout à fait classique, religieux, économique. Mais il n'y a pas du tout de politique antisémite. Au contraire, c'est l'État prussien qui émancipe les Juifs. C'est une décision de Hardenberg en 1811, si ma mémoire est bonne. Et les Juifs prussiens, comme les Juifs allemands, se sentent parfaitement chez eux, dans cet État prussien ou plus tard cet État allemand. Et Bismarck n'a aucune idée d'une politique antisémite. Et a fortiori de génocide.
Alors, Jean-Paul Blaine, nous arrivons au terme de cette émission. Peut-être une dernière question sur la Prusse. Peut-on parler de la Prusse à l'aube du 21e siècle ?
Alors, évidemment, une résurgence de la Prusse sous la forme d'un État prussien, bon, cela, je pense que on peut considérer que c'est nul et non avenu. Évidemment, bon. Mais que la Prusse soit vivante d'autre manière, là, c'est autre chose. Il y a une résurgence de l'intérêt porté à la Prusse en Allemagne. Là, je crois qu'on peut le dire. Et j'en vois une illustration très concrète et très actuelle. C'est cette décision de reconstruire le palais royal en plein cœur de Berlin, n'est-ce pas ? C'est une décision qui renvoie à un mouvement d'opinion, un peu comme il y a en France un mouvement d'opinion pour la reconstruction des Tuileries, mais pour l'instant, ici, on en reste au mouvement d'opinion. Or, en Allemagne, un pas a été franchi, un pas décisif, puisque le Bundestag a voté récemment une disposition qui a lancé une souscription nationale pour la reconstruction de ce palais royal à Berlin. Donc, cela signifie bien qu'on est sorti de la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, qui a d'ailleurs marqué aussi bien la RFA, la jeune RFA, que la RDA. Donc, cette période où on a ostracisé la Prusse. Là, on en est sorti maintenant, et le regard que l'on porte sur la Prusse est un regard beaucoup plus apaisé, et je pense que c'est une bonne chose.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Paul Blaine d'avoir répondu à notre invitation. Je renvoie nos auditeurs non seulement à vos livres, l'histoire de la Prusse chez Fayard, Frédéric Legrand, paru également chez Fayard, et votre biographie consacrée à Bismarck, paru aux éditions Alvic, autant de livres qui ont fait l'objet d'une émission sur Canal Académie que nos auditeurs peuvent retrouver dans la médiathèque. Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci.
Pour une nouvelle émission d'Un jour dans l'histoire.